D'abord, je voudrais quand même souligner quelques aspects d'ensemble qui m'ont paru tout à fait intéressants. Le premier de ces aspects, c'est que les auteurs dont vous aurez le texte complet dans les actes du colloque sont tous des spécialistes de la question, soit des spécialistes déjà confirmés par des publications antérieures, publication de livres ou d'articles, soit des doctorants plus jeunes, mais parfaitement immergés dans leur recherche, dans une recherche approfondie inédite, dont ils nous apportent quelques résultats. J'ai remarqué que ces spécialistes ne sont jamais péremptoires, qu'ils apportent des réflexions, des nuances, qu'ils admettent même quelquefois que certaines questions restent posées et qu'on n'a pas encore les réponses complètes. Leur bibliographie est équilibrée, ouverte, sans exclusive, et ils font le pont, j'ai remarqué ça aussi, ils font le pont avec les grandes thèses des années 70, qui ont apporté beaucoup à l'histoire et qui sont quelquefois un peu négligées. J'ai remarqué aussi qu'ils ont très largement recours aux sources, parmi lesquelles les écrits des acteurs et témoins à la base. Un recours, dit l'un des communicants, je cite, qui a depuis longtemps montré sa pertinence, en ajoutant, à condition de ne pas prendre dans les témoignages des exemples pour conforter une thèse, mais d'analyser ces témoignages en profondeur, dans leur contexte, en les confrontant à d'autres sources. Et j'ai apprécié particulièrement ce que l'un des communicants, dont je parlerai tout à l'heure, m'apporte et nous apporte aussi, pour mieux connaître ce témoin de la guerre de 14, qui est Louis Barthès. Sources et bibliographies de cette matinée ont le caractère international que le CRID revendique, et grâce à nos communicants, nous allons avoir accès à des textes qui sont peut-être pour nous français difficiles, des textes allemands, italiens, flamands, turcs. Hein, ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir contact avec ce type de texte. Enfin, ces communications retrouvent le social et avec cette dimension sociale, je crois, une certaine densité de l'histoire. J'ai placé la première communication tout à fait à part, vous allez voir pourquoi. Il s'agit de celle de Julie d'Andurin, Obéissance et désobéissance des généraux de la Grande Guerre. Alors il s'agit bien de l'armée française, mais il ne s'agit pas des soldats, il s'agit de ceux qui la commandent. Commande. Alors ces hommes qui commandent l'armée peuvent-ils obéir ou désobéir? Eh bien oui, car le papier de Julie d'Andurin nous rappelle ces règles fondamentales du fonctionnement de l'armée. Bon, on connaît la célèbre formule, entre guillemets, la discipline faisant la force principale des armées, il importe que les ordres soient exécutés sans hésitation ni murmure. Hein, ça c'est un peu la règle générale qui pourrait être le point de départ d'ailleurs de tout notre colloque. Or, la hiérarchie concerne également les généraux. Il y a un axe vertical de commandement. Par exemple, un général de brigade doit obéir à un divisionnaire et tous les généraux sont soumis aux ordres du général en chef qui est tout à fait au sommet de cette hiérarchie. Il faut, nous rappelle Julie d'Andurin, plaire et surtout ne pas déplaire. Plaire et surtout ne pas déplaire, c'est la règle d'or dans un milieu où l'esprit de corps demande obéissance au groupe, mais où en même temps s'affrontent des écoles de pensée, soit sur le strict plan militaire, soit en rapport avec l'origine et la formation des généraux. Et pour aller vite, je dirais que les uns sont les produits de la jésuitière et les autres sont francs-maçons. Donc on voit tout de suite la différence à la fois d'origine et de formation. Un général qui a désobéi ou qui a déplu en plus haut lieu peut voir sa carrière ralentie ou brisée. Et la sanction en France a pris le nom de la ville de Limoges. On dit qu'on limoge un général, Et là, je voudrais poser une question à tous les étrangers présents dans la salle. Tout à l'heure, ils apporteront la réponse éventuellement. Comment dit-on cela dans les différents pays? Hein, c'est tout à fait intéressant. J'ai lu, par exemple, qu'aux États-Unis, Hélène me contredira éventuellement, qu'aux États-Unis, on pouvait menacer un subalterne de l'envoyer à Poison Spider East, c'est-à-dire au fin fond de l'Amérique profonde. Alors, le limogeage en France est devenu un mode de commandement, en particulier au moment des défaites d'août 14, où il y a eu un très grand limogeage de généraux, puis il s'est appliqué à Joffre lui-même, car n'oublions pas qu'au-dessus du général en chef, il y a encore le pouvoir civil, dont nous verrons dans une autre communication tout à l'heure, qu'il reprend un petit peu de l'importance après avoir été réduit presque à néant au début de la guerre. Julie Dandurin montre enfin que comment l'obstination du général Nivelle après son échec, ici même son échec patent de l'offensive du chemin des Dames, comment cette obstination peut être qualifiée aussi de désobéissance et comment finalement lui aussi fut limogé. Vous comprenez que cette communication méritait d'être mise à part, puisqu'il ne s'agit pas des soldats, et c'est maintenant aux soldats que nous allons passer. La plupart des autres communications, en effet, traitent des soldats, et quatre d'entre elles sont centrées sur l'armée française, elles peuvent donc constituer une première grande partie. Dans celle-ci, sur l'armée française, je commencerai par la communication de Emmanuel Saint-Fucien, force et l'obéissance, intentions, formes et effets d'une pratique militaire dans l'activité combattante de la Grande Guerre. Emmanuel nous rappelle que dès avant 14, en France, des penseurs civils et militaires ont réfléchi sur l'obéissance qui, je cite Emmanuel, qui résulte de sentiments qui vont de la résignation contrainte à l'adhésion enthousiaste. Et en effet, dans leur réflexion, les militaires ont distingué trois catégories d'obéissance. L'obéissance automatique, produit du dressage, l'expression ce n'est pas de moi, c'est une expression de l'époque, du dressage des soldats. L'obéissance libre et volontaire, et l'obéissance forcée. C'est cette dernière obéissance, l'obéissance forcée, que la communication d'Emmanuel entreprend d'observer. Soit dans le combat lui-même, soit dans la retraite, soit aussi dans les marches forcées. Un des enjeux principaux de cette étude, nous dit l'auteur, est de décrire le lien entre l'usage de la force et le niveau d'adhésion de ceux qui doivent obéir. Emmanuel Saint-Fucien rappelle d'abord l'évolution en cours à la veille du conflit. C'est une évolution lente. On parle toujours de dressage, mais certains officiers, dont le plus célèbre, je crois, est Lyoté, qui est rappelé dans la communication, certains officiers ont montré l'insuffisance de la contrainte pour obtenir l'obéissance. Mais cette inflexion théorique passe très lentement dans les pratiques. D'autant que dès août 14, les défaites amène le haut commandement à prendre le contre-pied de cette lente évolution d'avant-guerre. Emmanuel cite la note de Joffre du 1er septembre 14, en notant que cette note est reprise quasi ligne à ligne par Pétain en juin 18, dans une conjoncture qui a aussi été défavorable après les différentes attaques allemandes commandées par Ludendorff. L'auteur note aussi une différence avec les instructions de 1870. En 1870, les ordres autorisent un supérieur à tuer, et le mot tuer est employé, à tuer un soldat désobéissant. Les ordres de 14 et de 18 n'emploient pas l'expression tuer, mais autorisent à forcer l'obéissance par les mesures les plus énergiques. Donc il y a petit adoucissement, mais dans les mesures les plus énergiques, on comprend qu'il peut y avoir aussi de tuer le soldat désobéissant. Et d'autant plus qu'à l'échelon inférieur, donc les généraux qui au-dessous des offres répercutent les ordres, il y a une aggravation, puisque c'est, on trouve dans les ordres des échelons inférieurs l'autorisation pour un officier d'abattre un homme. Donc le mot abattre est clairement prononcé. Quels étaient les cas envisagés pour ces mesures extrêmes ? Bien, il y avait faire cesser le pillage, maintenir les hommes au combat, ou cas de légitime défense de l'officier menacé qui se défend. Dans la pratique, dit Emmanuel, il semble qu'on ait peu puni le pillage, toléré et considéré comme, entre guillemets, une compensation psychologique après l'épreuve du feu. Mais la menace de mort d'un soldat par le revolver de l'officier a bien existé, nous dit-il, soit pour faire repartir les traînards, soit pour faire sortir de la tranchée ce qui serait un peu hésitant, soit pour éviter les vagues de panique. D'un tableau dressé à partir d'une série de témoignages de menacés, de menaçants ou de simples témoins, il ressort, premièrement, que la plupart de ces menaces se placent chronologiquement au tout début de la guerre, et deuxièmement, qu'elles deviennent de plus en plus inefficaces dans le temps. Et l'auteur conclut que le taux de violence dans le commandement diminue au fur et à mesure que le consensus s'effrite. Il conclut aussi à une contradiction entre l'affirmation d'une, entre guillemets, brutalisation croissante et les cas rarissimes où la menace de mort a été suivie d'effet. La deuxième communication, celle de Romain Ducoulombier, la sociale sous l'uniforme, obéissance et résistance à l'obéissance dans les rangs du socialisme et du syndicalisme français 1914-1916. Je crois que le programme disait jusqu'en 1918, mais bon, c'est mieux de se centrer sur une période un peu plus courte. Alors, dans cette communication, bien sûr, il ne s'agit pas de l'ensemble des soldats français, il s'agit des soldats français qui appartiennent à cette mouvance socialiste et syndicaliste. Et pour comprendre leur position pendant la guerre, un rappel est nécessaire, c'est celui de l'attitude des socialistes au 1er août 1914, l'attitude d'adhérer à l'Union sacrée, attitude qui s'explique pour des raisons que Romain analyse avec force détail, mais que je dois citer rapidement. D'une part, la menace bien réelle du carnet B, même si finalement elle n'a pas été appliquée, elle existait quand même au départ. Le choc provoqué par la mort de Jaurès. L'écrasement psychologique devant le comportement dominant dans la population française. La rapidité déconcertante, hein, c'est le mot intéressant, de la crise. La légitimité d'une guerre défensive, et puis dans le socialisme et le syndicalisme français, un certain nombre de préjugés anti-allemands qui ont pu jouer également. L'appareil dirigeant est relativement bien connu. Que se passe-t-il à la base ? Eh bien, à la base, on a l'impression que les militants sont, je cite, « pris dans la bourrasque » et qu'ils ne peuvent pas résister, mais qu'ils ont quand même gardé conscience de la contradiction existant entre, d'un côté, leur obéissance et leur conformisme, et de l'autre, leurs idées et leurs traditions. Et ce qui est très intéressant, c'est que Romain montre comment ces idées socialistes d'avant 14 ont eu, pendant la guerre, un cheminement souterrain pour venir ensuite irriguer les pratiques de la grève des tranchées de 1917. Idées revivifiées de temps en temps par un certain nombre de textes, soit des textes nationaux comme le texte de la Fédération socialiste de Haute-Vienne en mai 1915, ou surtout des textes internationaux comme ceux de Zimmerwald en septembre. Et petit à petit, un mouvement qui au départ était très minoritaire se renforce au fur et à mesure que la guerre s'écoule. Sur le front, nous dit l'auteur, les socialistes et les syndicalistes ont un comportement qui n'est pas fondamentalement différent de celui de leurs camarades non engagés. Toute la série des micro-pratiques de désobéissance de stratégies d'évitement, etc., ne sont pas propres à un milieu socialiste ou syndicaliste. On peut le retrouver, on peut les retrouver dans les souvenirs des autres combattants non engagés. Plus typique, sans doute, d'un comportement socialiste, les réactions au prosélytisme catholique à l'hôpital. Hein, ça, effectivement, ça se retrouve très souvent. Et on peut dire que une culture marquée par l'anticléricalisme, lentement forgée avant 1914, n'a pas disparu pendant la guerre. Comme exemple de mainteneur et de passeur de la culture socialiste, il cite Louis Barthas, le caporal tonnelier. Et Romain le qualifie, je cite, de contrebandier de la culture socialiste. Et ce mot est, je crois, très riche de sens, puisque c'est à la fois le maintien des idées, le passage, il fait passer ses idées, mais il les fait passer en fraude, comme un contrebandier, en prenant des risques, bien entendu. Alors, je ne sais pas comment Romain est venu à Louis Barthas, peut-être par la façon dont Stéphane Audouin-Rouzeau en a parlé dans divers écrits, disant que Barthas avait reconstruit son souvenir après la guerre et qu'il avait poussé au paroxysme la déformation du souvenir. Or, justement, Romain a montré en plongeant dans les archives qu'on trouvait des documents qui prouvaient que Barthas n'avait pas changé d'idée socialiste pendant la guerre, qu'il avait été l'homme qui écrivait sur ses carnets les malheurs de ses camarades et qui faisait passer dans les tranchées la littérature zimmerwaldienne. Alors il cite des documents tout à fait passionnants, dont certains, bon, je les connaissais, en particulier la lettre de Louis Barthas à Brison, dont on va reparler dans une minute, mais d'autres sont tout à fait neufs et prouvent que si on fouille dans les archives, on va encore trouver d'autres éléments. Merci de les avoir découverts et de les avoir rendus publics. Et merci aussi de conclure que les convictions de Barthas ne sont pas du tout une reconstruction d'après-guerre, qu'elles couvaient sous la résignation, qu'elles étaient confiées à ses camarades et à ses carnets. Et lors des mutineries de 1917, ajoute Romain, Barthas a tenu son rôle politique qu'il tenait dans le civil, c'est-à-dire son rôle de secrétaire de section, en rédigeant au nom de son bataillon un manifeste réclamant des permissions. Louis Barthas peut servir de transition vers la communication suivante, car c'est un des auteurs de la communication, Thierry Bonzon, qui a publié la fameuse lettre de Barthas à Brison, lettre du 17 août 1916. Thierry Bonzon et Fabienne Bock, associés, nous présentent une communication intitulée « L'appel au Parlement pendant l'année 1917, 300 lettres de militaires adressées à la commission de l'armée de la Chambre ». Ces lettres, nous disent les auteurs, constituent une prise de parole, au même titre que les graffitis que André Loez, par ailleurs organisateur du colloque, a étudié, avec la différence, bien sûr, que ces lettres sont une démarche légale, mais vécue comme une transgression et un refus. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir de cette catégorie de documents. En remarquant, et ça c'est intéressant je crois aussi, que cette commission de la Chambre a paru le destinataire légitime à qui exposer les plaintes et les griefs des soldats. Et ceci est évidemment à mettre en relation avec le réveil du Parlement et la détermination de cette commission à intervenir dans les domaines clés qui sont, d'une part, la fabrication d'armements, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais d'autre part, ici, la situation, intervenir dans la situation des mobilisés. L'écriture de ces lettres est posée, réfléchie, mais non exempte de forces revendicatives, principalement contre les inégalités. Je ne peux pas entrer dans les détails, bien sûr, puisque je dois faire un résumé, mais je retiendrai quand même deux formules employées par les auteurs. La première, qu'ils ont trouvée dans les lettres, « Y a-t-il deux catégories de Français ?» demande un des auteurs de lettres. Et un deuxième, « Aux uns les coups, aux autres l'argent et les faveurs. » Voilà l'inégalité entre les deux catégories de citoyens. Je ne peux pas reprendre la liste complète de ces injustices, mais j'ai remarqué l'importance du thème des embusqués, embusqué de l'arrière, embusqué du front, de la répartition inéquitable des permissions. Au fond, d'après ces documents, les clivages anciens, les clivages sociaux anciens et des clivages nouveaux apparus pendant la guerre entrent en contradiction avec le discours officiel sur l'égalité des sacrifices. Les soldats et citoyens qui ont écrit ont contesté le pouvoir discrétionnaire de la hiérarchie, comparant certains de leurs chefs à des hobereaux prussiens. Et là, bien sûr, immédiatement, ça fait penser au capitaine adjudant-major que les camarades de Louis Barthas ont surnommé le Kronprinz, tellement il est autoritaire et désagréable. En même temps, les auteurs de ces lettres font confiance au pouvoir civil, dont Julie Dandurin nous avait dit précédemment qu'il devait être obéi des généraux, dont les soldats trouvent un moyen de contester leur hiérarchie en s'adressant à ce qui est au-dessus des généraux. Si on veut entrer dans une bonne étude de la position du soldat de base envers la hiérarchie pendant la guerre, on peut passer à la communication d'Alexandre Lafont, Obéissance et désobéissance, dans le témoignage d'Henri Desperrières. À la différence de Barthas, qui avait 35 ans en 14 et une activité militante, Desperrières est un jeune homme, 21 ans, qui n'a pas encore réfléchi sur la vie, qui n'a aucun engagement politique et qui vient d'un milieu conservateur, bien-pensant, conformiste. Son éducation l'a imprégné de tous les modèles disciplinaires. Il part en 14 pour chasser les Prussiens dans une armée dont il ne conteste pas du tout la hiérarchie, dont il accepte les normes. Il apprécie les galons et il a plaisir à coudre sur sa manche les galons de caporal. Différence encore une fois avec Louis Barthas qui pendant quelque temps ne porte pas de galon, un officier le lui reproche et Barthas répond « Ben ce n'est pas la peine, tout le monde sait bien que je suis caporal ». On voit bien la différence de conception entre les deux. Mais la découverte de la guerre réelle fait évoluer Henri Desperrières d'une façon que je vais résumer de manière trop grossière, hein, c'est très complexe, c'est une évolution qui n'est pas linéaire, hein, il y a des nuances à apporter, mais dans un résumé, les nuances, bien sûr, on va être obligé de les laisser. En tout cas, Henri Desperrières passe désormais à la résignation, à la ténacité sous le regard des autres, chose bien connue, et aux stratégies d'évitement déjà précédemment évoquées, se faire porter pâle, se faire porter malade, obtenir une gâche, c'est-à-dire une planque, une situation privilégiée et la conserver. Stratégie individuelle, mais aussi stratégie collective, et Desperrières signale des refus de sortir dès le début de 1915. Avec ce cas remarquable, en mars 1915, deux soldats venant annoncer à leur officier qu'ils ne partiraient pas à l'assaut le lendemain et lui rapportant l'agnole qu'on leur avait distribué. Donc voilà, le rapport entre l'agnole et l'attaque aussi est tout à fait intéressant puisqu'ils ne veulent pas sortir, ils rapportent l'alcool qu'on leur a distribué. Bon, je dois laisser au public le soin de découvrir les textes de Desperrières dans le livre qu'Alexandre Lafont a produit et de découvrir les réflexions d'Alexandre lui-même dans sa communication écrite que vous lirez donc dans les actes du colloque. Simplement, il faut terminer apporter une petite conclusion sur cette communication et sur les attitudes de la troupe qui vise à limiter la violence reçue et infligée, et sur la façon extrêmement rapide pour un jeune homme de 21 ans de gagner en maturité. Bon, malheureusement, Henri Desperrières est disparu précocement à 22 ans en septembre 1915. Ainsi, Henri Desperrières n'a pas connu Verdun, ce voyage au bout de la condition humaine, selon l'expression d'Antoine Prot, dans le fameux livre dirigé, enfin la fameuse série de livres dirigés par Nora. Verdun, existe-t-il une ténacité propre au site et à l'événement? C'est la question que pose Paul Jankowski avec sa communication « Obéissance et désobéissance à Verdun ». Communication que je place en transition entre les deux parties de mon exposé, puisque c'est une communication qui s'appuie à la fois sur des documents français, mais aussi sur des documents allemands. Elle pourrait donc se situer dans les deux parties, et j'ai choisi, puisque j'ai le libre choix du plan, de la mettre ici en transition. Je reprends donc la question centrale de ce texte. Existe-t-il une ténacité propre au site et à l'événement, Verdun 1916, excluant défaillance et insoumission? Or, l'auteur découvre dans les sources françaises et allemandes du mécontentement, de l'angoisse, une désillusion. Pourquoi du côté allemand? Eh bien, avant l'attaque de Verdun, le moral des troupes allemandes était élevé, car les soldats pensaient que l'offensive amènerait la victoire et la fin de la guerre. L'examen des lettres et des carnets de soldats allemands montre que la désillusion est venue très vite et que le haut commandement est jugé responsable de l'impréparation ou de l'insuffisante préparation de l'attaque et de son échec. Côté français, les documents aussi montrent une critique de l'insuffisance de l'artillerie, de l'aviation, insuffisance aussi du système défensif de Verdun. Et donc dans ces conditions, on assiste à Verdun même à des refus de sortir, à des refus de monter en ligne. Les Français, nous dit l'auteur, sont éreintés. Les Allemands sont ausgebrannt, ce qui signifie certainement exactement la même chose. Et on constate des deux côtés des désertions, des redditions collectives. La guerre est finie, disent les Français, Kriegfertig, disent les Allemands, et c'est encore la même chose. Quelques conclusions dont Paul Jankowski nous dit qu'elles sont provisoires, beaucoup de prudence donc dans ses conclusions. Il nous dit d'abord que ces mouvements sont évidemment bien loin d'avoir l'ampleur de ceux de 1917 pour les Français ou de 1918 pour les Allemands, mais il y a quand même une ressemblance au niveau de l'explication. Et la ressemblance est celle-ci, c'est que l'horizon d'attente des combattants se noircit brutalement. Autre conclusion de l'auteur, ici à Verdun en 1916, la distinction entre soldats citoyens français et sujets prussiens pétris de discipline ne joue pas. Là, peut-être vous aurez à entrer dans la discussion, mais moi je vous donne un petit peu les conclusions de l'auteur. En tout cas, il me semble que grâce à cette communication, on peut souligner encore une fois l'intérêt d'études comparatives, soit individuelles, dans le cas précis, soit collectives, comme ce qui est en train de se passer dans ce colloque, et précisément ce matin, avec les communications que je vais regrouper dans une deuxième partie. Une deuxième partie où nous trouvons des éclairages sur d'autres armées que l'armée française. Et tout d'abord, un regard sur l'Italie avec deux communications. Celle de Irène Guérini et Marco Pluviano, 1917, l'été de feu de la désobéissance italienne. Été 1917, donc, avant Caporetto. Alors, on retrouve ici, pour l'Italie, des remarques que Emmanuel Saint-Fucien faisait pour l'armée française sur la dureté du code militaire, dureté aggravée encore par son interprétation par le général en chef Cadorne, qui ordonne de ne pas hésiter devant les exécutions sommaires et qui exerce une forte pression d'en haut sur ses subordonnés avec menace de limogeage. Et on retrouve Julie Dandurin que nous avons cité tout à l'heure. L'Italie a commis la plus dure répression de tous les pays belligérants. Chiffre officiel, 750 exécutés, près de 300 exécutions sommaires sans procès, plus un chiffre indéterminé de morts dû à un mitraillage de troupes débandées, un mitraillage ordonné par les chefs de l'armée italienne. Une répression Donc Adorna porte une lourde responsabilité, mais une répression qui est aussi soutenue par les pouvoirs, que ce soit le roi, le gouvernement, les académiciens, et le Corriere della Sera, donc la presse un petit peu officielle ou officieuse, soutient cette politique. Le paroxysme est atteint à l'été 1917, à cause de l'accumulation d'offensives stériles et meurtrières. Les auteurs nous disent bien, à peine la 10e offensive a-t-elle échoué, qu'on prépare la 11e, c'est extraordinaire. Et donc des offensives lancées, avec au fond cette idée simple, mais sur laquelle on pourrait discuter beaucoup, cette idée simple que l'Italie, ayant plus de réserves en homme que l'ennemi, celui-ci sera épuisé le premier. Donc voilà un petit peu la vision de Cadorne. Alors, communication très riche dont je ne peux pas évidemment rapporter tous les détails et tous les cas qui sont examinés. Je remarque simplement, comme dans l'armée française, une série d'actes individuels, désertion, automutilation, simulation de maladie, puis aussi des refus collectifs, la nécessité pour les autorités de mettre en place tout un appareil de coercition, automitrailleuse, cavalier, carabinieri, pour forcer la montée en ligne, les pratiques de décimation attestées dans l'armée italienne, tandis que ceux qui sont condamnés à des peines inférieures à 7 ans de prison sont immédiatement renvoyés au feu, la peine de prison elle-même étant renvoyée après la guerre. Ce qui se passe en Russie, évidemment, en 1917, est connu de l'armée italienne, comme de l'armée française aussi, et les auteurs nous disent que les mutineries de l'armée française sont également connues. Et là, je poserai une question à laquelle les auteurs répondront tout à l'heure. Est-ce qu'on peut savoir par quels moyens ces informations étaient passées? Est-ce qu'on peut savoir qui les connaissait? Est-ce que c'était le commandement ou est-ce que c'était aussi la troupe? Bon, je pense que vous nous apporterez un complément tout à l'heure au moment de la discussion. En tout cas, le système Cadorne s'effondre avec Caporetto. Cadorna est limogé, peut-être y a-t-il une expression italienne aussi imagée que l'expression française, et arrive un nouveau général en chef, Diaz, qui infléchit les méthodes, et cet infléchissement va apparaître avec la communication suivante, donc il y a un lien entre les deux ici, de Stéphanie Precioso, les volontaires face à la désobéissance, le paradoxe italien. Les volontaires. Alors de qui s'agit-il ici? Il s'agit des jeunes interventionnistes, partisans donc de l'intervention italienne dans la guerre, qui s'engagent dès 1915 dans l'armée italienne, une catégorie compacte par leur volonté belligérante clairement affirmée, et cependant un groupe hétérogène, puisqu'il y a parmi ces interventionnistes des démocrates, des révolutionnaires, des nationalistes, donc des gens d'horizons extrêmement différents. Sur 8471 volontaires, une centaine s'engageront ensuite dans l'antifascisme. Et on peut les connaître grâce à tout un corpus de correspondances que Stéphanie a étudié. Ce qui doit être souligné, nous dit-elle, c'est une série d'ambiguïtés. Première ambiguïté, ces hommes se sont enrôlés pour défendre l'Italie dans une guerre contre d'autres nations, tout en aspirant à une révolution qui renverserait le système en place en Italie. Et donc l'ambiguïté, défendre, mais aussi renverser tout le système, l'appareil dominant et son discours. Deuxième contradiction, ces gens-là sont des volontaires, mais en même temps, les autorités les regardent avec méfiance. Troisième contradiction, vis-à-vis du peuple soldat, ces gens-là éprouvent un sentiment de supériorité. Et je remarque que grâce aux sources qui concernent ces volontaires, on a aussi, comme en creux, une information sur les soldats dont Stéphanie nous dit, et je crois que les autres communicants italiens pourront dire la même chose, que la seule chose qui comptait pour eux, c'est de rentrer chez eux. La guerre ne les motivait pas spécialement. Et enfin, La nouvelle contradiction qui apparaît, c'est quand ils sont au contact de la guerre réelle, de la guerre vécue, comme le soldat Desperrières d'Alexandre Lafont, quand ils s'aperçoivent que la guerre réelle et vécue n'est pas la, entre guillemets, la guerre garibaldienne, c'est-à-dire la guerre romantique. Avec l'arrivée de Diaz, nouveau général en chef dont on a parlé tout à l'heure, ces volontaires vont être mieux considérés et mieux intégrés. Car, ayant constaté la faillite du système de son prédécesseur, le nouveau général en chef souhaite s'appuyer sur des officiers subalternes proches de la troupe, comprenant le mécontentement des soldats puisqu'ils ont connu eux-mêmes la vie des tranchées, susceptibles de discuter avec eux, de les convaincre, mais en même temps qu'ils soient capables de réprimer. Voilà des hommes dont on a besoin. Bien sûr, avec l'auteur de la communication, on peut se demander si c'est de l'aveuglement ou de la duplicité. La question est clairement posée dans le texte. Et l'auteur cite l'un de ses volontaires, qui est assez connu, Loussou, qui dit « L'expérience de guerre a renforcé la conscience de classe des paysans italiens, mais les socialistes n'ont pas su la comprendre, et finalement, c'est Mussolini qui a gagné. » Or, Stéphanie nous donne une conclusion différente, puisqu'elle nous dit, au contraire, que la désobéissance radicale dont ces hommes se faisaient les héros, avant l'entrée en guerre, n'a pas joué le rôle de ferment révolutionnaire qu'il lui avait attribué. Donc, elle conclut un petit peu à l'échec de ces jeunes interventionnistes. Vous le voyez avec cette remarque sur Mussolini, sur les paysans, l'échec des uns, le succès des autres, on est de nouveau dans le social. Et la réflexion sur le social est également présente dans la communication de Bruno Benvindo, déserter le front belge. Donc on va passer à l'armée belge. La guerre et ses marches, 1914-1918. Communication qui propose d'étudier la variation de l'obéissance dans l'armée belge selon la classe sociale et selon l'intégration à la nation. Je résume, bien sûr, hein, la communication, et donc je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais j'en ai retenu quand même 4 qui sont extrêmement parlants. 83% des déserteurs étaient soit des simples soldats, soit des caporaux. 98,5% appartenaient à l'infanterie ou au génie. Bon, on le comprend. 90% exerçaient des métiers manuels et 93,4% étaient des flamands. Donc voilà 4 chiffres qui sont extrêmement parlants. Alors en Belgique en général, et dans l'armée belge en particulier, la connaissance du français était indispensable si l'on voulait gravir les échelons sociaux, l'échelle hiérarchique. La langue était un marqueur de classe, un instrument de domination, et les flamands étaient, bien que majorité dans la population, c'était une majorité discriminée et donc traitée comme une minorité par le groupe dominant. Dans l'armée, les flamands qui ne possédaient que leur langue, les flamands unilingues, ne pouvaient occuper que les postes subalternes, et principalement dans l'infanterie, qui était la plus exposée en première ligne. La situation concernant les désertions dans l'armée belge a été particulièrement critique au cours du premier semestre 1918, avec l'accumulation des fatigues, et avec les offensives allemandes qui semblent victorieuses, enfin qui dans un premier temps, en tout cas, paraissent victorieuses. Alors les Flamands découragés ont été, nous dit l'auteur, tentés de faire un pari sur l'avenir, sur la place d'une nouvelle Flandre dans une Europe marquée par la victoire allemande. Et ils ont été aidés en cela, bien entendu, par une forte propagande allemande elle-même, envoyés vers les tranchées belges par différents moyens, alors que les combattants francophones n'avaient absolument pas la même perspective. Donc ça explique que les combattants francophones ont peu déserté. Toutefois, il ne faut pas être aussi général, puisque l'organisation flamande Front Beweging était hostile aux désertions, et que le chiffre global des désertions a quand même été faible. Je passe sur beaucoup de détails que nous donne l'auteur pour arriver au 22 juin 1918 où on a une statistique qui nous dit au 22 juin 1918 que sur 220 000 hommes de l'armée belge, on comptait 3 000 absents. Et le mot absent d'ailleurs lui-même montre que c'est peut-être pas vraiment des déserteurs. Au total, d'après Bruno Benvindo, la désertion de l'armée belge a été un phénomène marginal. Ce qui a dominé, nous dit-il, c'est le conformisme et la ténacité dans une situation qui reste elle-même particulière, puisque, premièrement, l'armée belge était quand même l'armée d'un pays qui était en quasi-totalité occupé par l'ennemi, et que pour pouvoir rentrer chez soi, il fallait l'en chasser. Et deuxièmement, et ça je crois que c'est très très important aussi, l'armée belge n'a pas participé aux offensives meurtrières, le roi Albert étant très soucieux d'épargner au maximum la vie de ses soldats. Donc c'est quand même une situation, elle aussi, marginale par rapport à l'armée française. On voit, avec ces différents exemples, que les situations en guerre ont été extrêmement variées, et on en arrive enfin au cas de la Turquie. Ozan Arslan, la désertion dans une guerre de libération, 1919-1922, la désobéissance dans l'armée de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et les tribunaux d'indépendance. 1919-1922, c'est donc une guerre qui n'est plus 14-18. Et c'est ce qui explique que j'ai mis cette communication un petit peu à part. Elle ne peut pas être non plus une conclusion, bien entendu, c'est une communication en soi. Et donc, à mon avis, comme je l'ai dit plus haut, c'est une communication qui va pouvoir nous servir de transition entre ce que nous disons ce matin et ce qui va être dit demain matin. Donc, pas 14-18, mais, bien sûr, une période très proche et qui est liée directement à 14-18. C'est pourquoi la communication a été placée ici. Alors justement, Ozan Arslan fait un retour en arrière sur le phénomène de la désertion pendant la guerre mondiale, un phénomène qui a été dans l'armée turque un phénomène massif, puisque les chiffres hésitent entre 3 et 500 000, 300 et 500 000 déserteurs en 1918, avec la remarque qu'il s'agit là aussi, comme pour les Flamands, de minorités grecques, arméniens, arabes, kurdes, car leur indépendance éventuelle ne pouvait venir que de la défaite de l'Empire ottoman et la victoire de l'Entente. Or, dans la guerre de libération de 1922, les déserteurs ne sont plus les minorités, mais ce sont les Turcs anatoliens. Pourquoi ? Certains pensent que, après avoir connu une première défaite en 14-18, une nouvelle défaite est inéluctable, donc c'est pas la peine de continuer à se battre. Certains restent fidèles au sultan calife, donc à la fois chef politique et religieux, qui est l'autorité légitime, ou l'ancienne autorité légitime, et ils préfèrent aussi protéger directement leur famille dans un combat de guérilla qui leur convient mieux que l'engagement dans une armée régulière. Avant même la création de ces tribunaux d'indépendance pour juger les désertions, les sanctions étaient déjà très lourdes, très dures dans l'armée turque, décimation, là aussi, exécution sommaire, confiscation des biens des déserteurs, donc les tribunaux d'indépendance ne sont qu'une étape supplémentaire dans une stratégie extrêmement dure. Et ces tribunaux d'indépendance ont été créés consciemment en référence à la terreur de l'époque de la Révolution française. Dans les textes, on trouve très clairement l'allusion à cela, et leur justice a été évidemment expéditive, leur efficacité renforcée, lorsqu'il a été décidé que les populations qui protégeraient les déserteurs seraient punies à leur tour. On ne se contente pas de punir le déserteur, mais ceux qui le soutiennent et le protègent. Or, c'est un procédé, une technique qui est bien connue par ailleurs dans d'autres circonstances. Je ne citerai que la France de Napoléon Ier, où on a également des mesures identiques. Le phénomène de désertion et le rôle des tribunaux d'indépendance est aussi à mettre en rapport avec la victoire et la défaite. La victoire des nénus, par exemple, entraîne leur abolition, sauf un qui est maintenu, et la défaite entraîne leur rétablissement. Donc là aussi, il y a un lien avec les difficultés, avec la défaite. On retrouve l'extrême sévérité de l'armée française dans les défaites d'août 14, ou la recrudescence d'un mouvement de désertion dans l'armée belge lors de l'avance rapide de Ludendorff au printemps 1918. Voilà un résumé imparfait, un résumé trop grossier de communications de grande qualité qui ont montré l'intérêt de ces approches multiples internationales s'appuyant sur des sources abondantes, scrutées avec attention et sans a priori. Et à mon avis, tout cela laisse prévoir une riche discussion que l'intervention d'Antoine Pro va lancer dans quelques minutes.